Nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman, et ce matin nous allons parler avec Alain Frediger, qui vient de publier au printemps un livre qui s'appelle Liquéfaction, chez Hélas Édition. Et nous allons parler avec Martin Page, qui vient de publier chez Monstographe, Au-delà de la pénétration. Donc, ce matin, c'est une leçon de physique. Nous allons faire l'inventaire des liquides et des solides. Et donc, salut Alain, j'ai trouvé ton livre formidable. Et c'est un livre sur l'eau. Donc, le personnage principal est dans sa baignoire. Il y a une inondation qui arrive et il l'a emporté avec sa baignoire. Donc, c'est un livre sur l'eau, mais qui tient très, très bien à la route. Donc, comme je le disais, tout se passe comme dans une baignoire. Et avec toi, comme avec Héraclite, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Alors, j'ai pensé à Délivrance, le film. Oui. Apocalypse Now. Bon, tu fais des références au Conrad dont Apocalypse Now est tiré, parce que Apocalypse Now est tiré de deux livres, Putain de mort de Lucien R. et d'un livre de Joseph Conrad. Et j'ai pensé aussi au Palmier sauvage de Faulkner. C'est deux nouvelles, et je crois pas que tu le cites, mais d'un côté, c'est deux nouvelles tête bêche, et il y a une nouvelle, c'est sur une fille qui est avortée, qui est dans la montagne avec son mari. Et l'autre, c'est un bagnard, il y a une inondation, son pénitencier est envahi par l'inondation sur le Mississippi. Bien sûr, oui. Et donc il va très très loin, il est emporté par l'eau, et il revient au bagnard, il revient au bagne volontairement.
Si je t'oublie, Jérusalem, quelque chose comme ça.
C'est ça, la nouvelle traduction. Ouais. C'est la première traduction, ça s'appelait Les Palais Sauvages. Ah, voilà. Ils l'ont retraduit. Ouais. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue se colle à mon palais.
Oui, c'est ça, exactement.
Etc. C'est très beau. Eh bien voilà, donc tu fais l'histoire dans cette baignoire, donc tu fais l'histoire de la baignoire aussi, tu fais l'histoire de la baignoire dans la peinture, chez Manet, Bonnard, Degas, tu fais l'histoire du liquide en général dans la littérature. J'ai pensé dans le bus ce matin en venant, quel professeur merveilleux tu ferais, avec très fluide et très ludique et avec un très très bon rapport à la connaissance, un rapport très joyeux à la connaissance. J'ai pensé aussi, puisqu'on avait déjà eu l'occasion de discuter, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé que c'était beau comme un showroom de Rem Koolhaas, il y a quelque chose de... Enfin, j'ai une petite idée sur le postmoderne, sur une espèce d'idée de carrelage miroitant, comme ça.
Le carrelage est fait pour miroiter, et d'ailleurs, c'est ce qu'on trouve dans la peinture de Bonnard. C'est la lumière du sud sur le carrelage, sur les tomettes.
Et donc, alors, vas-y, raconte-nous ton livre.
Alors en fait, effectivement, c'est une sorte d'étude vaste de la liquidité, mais aussi un roman d'aventure. Et il commence dans une baignoire, et ensuite c'est un déploiement. Donc au début, on a cette eau stagnante de la baignoire que le personnage principal essaie d'épuiser de toutes les manières. Il est ensuite emporté sur le fleuve en crue, donc on a à ce moment-là un flux, l'eau qui coule, mais dans une direction bien précise. Et on arrive à la mer, et là, tout à coup, c'est plus un flux, ce sont des courants contradictoires. On est parti d'une eau stagnante, une eau coulante, et maintenant l'eau est agitée de mouvements dans tous les sens. Et tout ça est également ensuite lié à la surface, à la profondeur, à la zone de flottaison, en fait, qui coupe les corps en deux, les coques de bateau, parce qu'il y a effectivement non seulement l'emportement du flux, mais la découpe que l'eau opère sur la réalité, y compris le jeu des reflets, des formes inversées, des icebergs dont on ne voit qu'une partie émergée. Et finalement, ce personnage qui lui aussi au départ était seul dans sa baignoire, coupé en morceaux, en différentes surfaces, se retrouve sur un bateau qui est un sablier, une sorte de nef des fous avec les quelques survivants de la planète qui est en train de souffrir un nouveau déluge. Et ils partent à la recherche d'une terre encore émergée, en emportant avec eux du sable sur ce navire sablier, dans l'espoir de peut-être refonder quelque chose. Mais en même temps, le sable, évidemment, c'est pas n'importe quel solide, parce que la granularité renvoie directement à la physique des fluides, elle aussi.
Tu la cites, la nef des fous, j'y avais pas pensé.
Je la cite implicitement. Ah oui, voilà. C'est un scoop exprès pour Aligre FM, la vie est un roman.
J'essayais de maîtriser. Et puisqu'on va parler d'érection après, là je vais à la page 29, Baptiste Hoth réalise qu'il a une érection et même plutôt solide, agréable sensation dans un bain. C'est oui. aussi un livre assez érectif, en fait.
Ben absolument, parce que l'eau chaude, le bain, cette espèce de douceur enveloppante provoque par contraste des réactions de dureté et d'envie de pénétration. D'ailleurs, l'eau elle-même a un taux de pénétration différent selon qu'on y entre tout doucement ou violemment. Il est aussi question de ça à un moment donné lorsque Baptiste parle avec cette femme qu'il a rencontrée en cours de route, Anna, qui elle... plutôt que de rester dans un navire, aime l'eau et nager et se confronter immédiatement au liquide.
En passant, la Reuse, le fleuve s'appelle la Reuse.
Le fleuve s'appelle la Reuse. C'est une invention parce que j'avais besoin d'un fleuve qui part de Suisse et qui s'écoule
tu
dans l'Atlantique.
Tu penses au Rhône, donc.
Alors, il y a un peu de Rhône, un peu de Meuse, un peu de Rhin. Et puis le RH qui est le ro, en fait, c'est du grec, ça veut dire couler.
Il faut que je reste concentré parce qu'effectivement, hier soir, je me suis dit c'est la Meuse parce qu'il y a beaucoup de références à Lescaut. Tu es
aussi,
fan d'un auteur
sûr.
Qui s'appelle Franck Venaille.
Franck Venaille, magnifique poète.
Et donc, c'est un poète, je le connais pas.
C'est un poète qui est décédé d'ailleurs il y a un ou deux ans, tout récemment. Qui a écrit une magnifique descente de Lescaut.
Pour un Belge, Lescaut appelle la Meuse.
Ah, bah oui.
C'est vraiment. Ça va de soi. Et il y a une superbe citation de Flaubert. « Je sens, contre la bêtise de mon époque, des flots de haine qui m'étouffent. Ils me montent de la merde à la bouche, comme dans les hernies étranglées. Mais je veux la garder, la figer, la durcir. J'en veux faire une pâte dont je barbouillerai le 19e siècle, comme on dort de la bougée de vache les pagodes indiennes. » Tout ça est très érectif. Je trouve ça vraiment... Ce cri de rage est magnifique.
Ah, il est magnifique.
Magnifique.
Mais parce que le fluide a différentes textures et évidemment les flots de bouger peuvent en être une forme.
Il y a aussi un moment comme une idée de la Suisse inondée.
Oui, parce qu'en fait ça part des Alpes suisses, les vallées suisses, le barrage est constitutif de la Suisse moderne. La rétention de l'eau donne ensuite l'inondation facilement. Tandis que sur le territoire français, où continue le roman, là, c'est plutôt la plaine qui prend l'eau de partout. Mais on commence sur cette idée de barrage, de vouloir retenir, et la Suisse est constituée sur un imaginaire de montagnards, mais le fait est que les villes sont dans les plaines, que les cultivateurs sont dans les plaines, et on n'a pas beaucoup parlé d'eux, si ce n'est... lorsqu'on s'est mis à inventer une civilisation de lacustre au 19e siècle pour essayer de faire pendant à cette Suisse montagnarde conservatrice. Mais c'est aussi une fiction. Donc il y a cet enjeu de la Suisse inondée là derrière.
Et c'est une idée, c'est un amour fou, quoi, l'idée de la Suisse inondée. C'est vraiment un oxymore excellent. Et donc, ton célèbre compatriote, sûrement un des plus célèbres encore vivants, qui s'appelle Jean-Luc Godard, son premier film porte sur quoi ?
Il portait justement sur le barrage de la Grande Dixence, qui est le plus grand barrage de Suisse, dans un film qui s'appelait Opération Béton. Donc, il a aussi commencé par cette Suisse potentiellement inondée, où on voit de construction d'inondations.
Et donc, tu t'es interdit de parler de cinéma dans ton livre. Est-ce que toi qui étais un grand connaisseur de cinéma, tu ne fais pas
référence? Non, il n'y a pas beaucoup de références au cinéma, mais il y en a une ou deux sur les images bougées, l'enchaînement des images qui produit un effet de liquidité, des effets de réel comme ça. Mais effectivement, j'ai plus axé sur la peinture. En fait, en partant de la baignoire, parce que finalement, la peinture de baignoire est presque un sujet en soi.
Bon, je vais pas dire la citation de Ramu et la citation de Bulgakov à laquelle j'ai pensé. Ça faisait penser, oui, sur la Suisse inondée. Quand j'habitais à Rolle, donc où habite Godard maintenant, j'ai habité 4 ans à Rolle, il y avait eu des morts dans un camping en France et je discutais avec un garçon de mon âge à l'époque à Rolle et je lui ai parlé de ce camping inondé et il disait en Suisse ça n'aurait pas lieu. Il y a des réglementations qui fait qu'on ne pourrait jamais construire un camping dans une zone inondable.
Oui, mais c'est partiellement vrai. En fait, dans les faits, il y a tellement peu de surface où bâtir que les normes ne sont pas respectées. Puis on se met à construire dans les zones inondables. Ça dépend aussi aussi des cantons qui sont plus ou moins respectueux. Et puis toutes ces normes de crue changent constamment. Pendant longtemps, il fallait endiguer les fleuves. D'ailleurs, il est aussi question de ça dans ce livre. C'est-à-dire dompter le fleuve, l'endiguer, le bétonner ou agrandir le chenal. Et maintenant, la philosophie, c'est plutôt de lui rendre un espace de liberté afin qu'il puisse se contracter et se comprimer un peu plus librement. Donc il y a toute une philosophie presque organiste là derrière. Laisser les fleuves en liberté ou les contraindre à travers des levées.
Oui, c'est vrai que si on regarde le bord du lac Léman, il y avait un gros débat sur le bétonnage des digues, sur le fait de créer des digues ou pas. Et il y avait un des privilèges, c'est de ne pas en avoir. Et puis, si on va en vallée, on va avoir des bords très différents. On voit bien.
Oui, voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de débats sur le Rhône. Et maintenant, on est en train de travailler à la troisième correction du Rhône, comme elle est intitulée. Donc, il s'agit de rendre un petit peu des berges au Rhône afin qu'en cas de crue, il y ait une marge de manœuvre pour réagir. Alors qu'autrefois, la correction du Rhône, c'était vraiment endiguer le Rhône, le faire passer ici plutôt que là, afin de le dompter.
Oui, il y avait aussi, je me souviens de l'avoir descendu sur un petit canoë, un petit véhicule gonflable, là, et d'avoir, j'ai presque perdu la tête parce qu'il y a des câbles à haute tension qui passaient comme un mât assez bas, et j'étais debout, et ils ont crié, j'ai réussi à me baisser au dernier moment, donc il y avait ce contraste, d'un côté la nature sauvage et de l'autre, c'est comme en montagne.
En fait, elle est bâtie de partout, quand on descend le Rhône, on voit des graffitis, on voit des câbles, on voit des piles de ponts taguées, enfin, on croit être en pleine nature, parce qu'effectivement, on voit plus la ville qui est masquée par les arbres, mais on voit des tas d'autres éléments hydroélectriques, notamment, parce qu'évidemment, aucun fleuve de Suisse n'est laissé tel quel. Il y a partout, les forces possibles de l'électricité sont utilisées. Les berges sont plus ou moins aménagées. Et puis le fait est qu'il y a toujours des crues et des inondations. Il y en a encore eu il y a quelques années. C'est quelque chose qui demeure.
Oui, comme pays qui est une image idyllique de la nature. C'est un pays dans lequel il n'existe pas de nature qui a été refaçonnée par l'homme, pratiquement.
Non, parce qu'il y a tout cet imaginaire de mettre la nature propre en ordre, en coupe réglée. D'ailleurs, il y a un affreux livre au 19e siècle qui s'appelait « Robinson Suisse », où ils partent à l'autre bout du monde et ils se mettent à exterminer tous les animaux qui ne sont pas directement utiles, arracher toutes les plantes qui ne sont pas directement utiles et transformer cette petite île en espèce de petite Suisse en coupe réglée à l'autre bout du monde.
Et pour prendre un exemple qui est plus familier à la majorité des lecteurs, c'est Robinson Crusoe. Donc on a tout de suite, mais là c'est une version puritaine, mais c'est la même chose.
C'est la même chose.
Et Joss disait, les Anglais sont des êtres infects, dès qu'ils arrivent quelque part, la première chose qu'ils construisent, c'est les chiottes. Ça fait penser aussi à la Suisse quand on la connaît. Et donc la richesse de ta culture, de tes références absolument inouïes. Tu arrives à citer Debord, par exemple, dans ce livre.
Ah, parce qu'il a beaucoup écrit sur les bords de rivière.
Et
il a magnifique
beaucoup,
film
et
là-dessus.
Les films, oui. Et puis Venise. Et puis Venise. On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve.
Ah, ben
c'est
oui.
Son truc. Au bord de la rivière, commencer le soir et les caresses et l'importance d'un monde sans importance. Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps. Ça rend bien aussi l'idée de ton livre sur le mouvement perpétuel.
Oui, parce que finalement, on est tous liés à cette philosophie héraclitéenne, ce mouvement perpétuel, ce flux, ces
quand
particules.
Une lecture que j'ai eue adolescent, les trois présocratiques, c'était quand même plus facile pour moi de rentrer dans Héraclite que de rentrer dans les autres.
Et on ne rentre jamais deux fois dans le même Héraclite,
exactement,
d'ailleurs.
Exactement, oui, exactement. Et donc tu cites aussi Van Hegem, dans l'érotique, il n'y a d'autre perversion que la négation du plaisir, que sa falsification dans le plaisir angoisse, qu'importe la source pourvu que l'eau s'écoule.
Oui, parce qu'en fait, il y a tout un certain nombre de citations qui trouvent leur juste place à certains moments de la narration.
Oui, enfin, c'est moi qui tire ça vers les citations, mais c'est une histoire et je suis en train de penser à l'instant à un aspect burlesque qui est bien rendu aussi dans la bande dessinée. C'est très speed, en fait. C'est très speed, il se passe tout le temps des choses, le mouvement est tout le temps là.
Le mouvement est tout le temps là, parce qu'il fallait que ce soit aussi un récit d'aventure. C'est avant tout une grande épopée sur l'eau. C'est un roman maritime et fluvial. Également.
Et donc les personnages sont très agités, comme quelque chose qui c'est une eau vive. Donc on a Alors, on a une version très poétique en ville, c'est quand il y a de l'eau dans le caniveau, jeter une petite chose dans le caniveau, faire des courses quand avec des enfants, entre des choses dans un caniveau, mais c'est une eau vive et donc les choses sont agitées. C'est pour ça que je pense à tous les petits traits dont on sert en bande dessinée pour montrer un mouvement, c'est des traits de vagues en fait.
C'est
des
traits c'est souvent des
ou
vagues.
Ou des ondes sonores, comme on montre
ou des ondes
sonores.
Radio. Oui, parce qu'en fait, les personnages eux-mêmes se rendent compte au bout d'un moment qu'ils sont eux-mêmes constitués de fluide, de liquide, donc ils sont dans la même agitation que l'eau qui gonfle. Ils ont tout à coup les membres qui gonflent, les sexes qui deviennent bombés. Ils sont pris dans la liquidité qui est partout en train de d'exploser. Et tout ce qui les constitue, y compris au bout d'un moment, la parole, le récit, qui est elle-même un flot et un flux, devient une sorte d'écho aux éléments liquides qui sont agités un peu partout autour d'eux.
Oui, le récit peut faire penser à un quatuor à cordes assez vif, un quatuor à cordes, disons, baroque, quelque chose de bien, à la Vivaldi. Et je pense encore à cette vision de
baroque d'ailleurs.
D'érection. Ce matin, j'ai des visions érectives comme ça. Et Anna, le personnage féminin qui va voyager avec ton héros, parle des érections. Elle dit tubante, des choses comme ça.
Ah oui, et puis
il y a du désir.
Il y a du désir et il y a tout à coup des pièces de bois que prises dans le fleuve. Il y a tout ce jeu entre le solide et le liquide également. Et Anna, d'ailleurs, en grec, va signifier le long de, donc elle est aussi liée au tracé le long du fleuve.
Et donc il y a quatre chapitres. Pourquoi cette division? Enfin, quelles sont les raisons d'être de ces quatre chapitres?
Mais on parlait tout à l'heure aussi de différentes influences, peut-être délivrance, et puis Joseph Conrad au cœur des ténèbres, qui est une remontée du fleuve Congo, je crois. Donc là, il y a aussi une sorte de remontée temporelle à travers la narration. Ça commence dans cette baignoire. Il y a une écriture qui est plutôt postmoderne, une sorte de narcissisme redondant, nombriliste. On arrive peut-être aussi proche d'une écriture de miscellanée, de choses de liste, etc. On arrive ensuite dans une deuxième partie où on est plutôt dans une écriture moderniste, quelque chose à la fois de dialogué mais d'épique et en même temps plein de renvois. Une troisième partie qui est une narration plus collective avec où on perd un peu de vue le personnage principal pour avoir des narrations d'ensemble comme on peut trouver, je sais pas moi, dans les sagas vikings ou dans les grandes épopées. Et la quatrième partie, on n'est plus que dans l'oralité, c'est-à-dire des récits directement racontés par les personnages. Mais en même temps, tout ça est paradoxal parce que ces récits racontés par les personnages le sont sous une forme très écrite, tout comme les dialogues philosophiques de l'Antiquité ou d'autres peut-être les récits de Boccace, du Décaméron. Mais on a ce mouvement qui est à la fois une remontée dans le temps et une sorte d'histoire littéraire. C'est aussi mon histoire littéraire, finalement, ce roman.
Donc, Alain Frédiguer, Liquéfaction.
Cold sweat, hot-headed blood. Cause I need this hole gone. Funny you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out the way I want you to stay. Stay. I want you to stay.
Donc maintenant, nous allons parler de Au-delà de la pénétration avec Martin Page, publié chez Monstrographe. Qu'est-ce que... on sait ce que c'est, le livre. Qu'est-ce que vous nous pourriez... Enfin, comment définiriez-vous l'ensemble de la problématique, pour commencer?
Poser comme ça, mon Dieu.
Sinon, on peut prendre autrement. À la fin du livre, il y a la question de la douchette et du papier, par exemple, comme contraste. Les sociétés où on enlève les chaussures en rentrant dans une maison se nettoient le derrière avec de l'eau, puisqu'on vient parler de l'eau. Et les sociétés où on garde ses chaussures à l'intérieur de la maison sont très polluantes et on se nettoie les fesses avec du papier. Mmh. Donc, et j'ai lu ce livre avec beaucoup de plaisir et très attentivement. Ça m'a donné plein d'idées. Mais vous avez ressenti la nécessité de l'écrire. Alors, ouais. quelle est la nature de cette nécessité? Pourquoi maintenant?
Alors, pourquoi maintenant? Je ne sais pas très bien. C'est un livre dont j'ai eu l'idée il y a 4 ans à peu près. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée d'écrire un livre sur la pénétration? Sans doute parce que... J'aime bien écrire sur des sujets qui troublent. Mon précédent essai, c'était un essai sur la cause animale, sur le véganisme. Et s'il parlait de la pénétration, des rapports sexuels, mais les gens mal à l'aise parlaient du véganisme, mais aussi les gens mal à l'aise et parfois même en fureur. Donc, moi je suis végane. Enfin, parfois, je mange végétarien, mais je suis, on va dire, majoritairement végane. Donc, voilà, j'aime bien les questions qui troublent. Qui fâche aussi, même si c'est pas délibéré. Moi, je suis quelqu'un de très, très pacifique, évidemment.
C'est amusant parce que j'ai pensé à l'écologie, mais vraiment en fermant le livre, dans le sens où j'avais lu un par hasard, comme on découvre les choses par hasard, je lis un livre sur l'architecture verte, et dans la préface, ils disent le catholicisme est vraiment responsable de beaucoup de choses pénibles sur cette terre, parce que Dieu fait la nature pour l'homme, et donc tout lui appartient, il ne respecte absolument rien dans cette idéologie catholique, et ça explique le fait qu'ils aient bétonné la terre, qu'ils aient salé les océans et tout. Et donc cette question, c'est la même chose, la pénétration, c'est ce geste assez violent en avant de s'emparer, d'être prédateur, de s'emparer des choses et de considérer que les choses nous appartiennent. L'homme se sert de son érection comme un bâton de pouvoir, comme il pénètre la femme, comme on pénètre des territoires vierges, c'est le cas de le dire. En tout cas la première fois, pour s'en emparer et pour les dompter et pour en faire des choses. Ça pourrait être une démotivation. On serait à une époque où il faut repenser le rapport au monde et les femmes feraient partie du monde.
Oui, il semblerait. Alors ensuite, ce rapport violent à la pénétration, j'espère que tous les hommes en sont pas là. Ensuite, sur la question de la nature, ouais, c'est vrai que c'est souvent ce qui est opposé, mais c'est un peu la même chose par rapport au fait de consommer de la viande. C'est-à-dire, c'est toujours le même argument, c'est naturel, c'est comme ça. Manger de la viande, c'est naturel, on l'a toujours fait. La pénétration, c'est naturel, on l'a toujours fait. Donc oui, dans ce livre, il y a une remise en cause de l'argument naturaliste, on va dire. Parce que, on voit bien, en plus, c'est un argument qui ne sert que quand ça arrange. C'est-à-dire que les gens qui sont pour la nature, qui disent, ah, mais c'est naturel, donc il faut le faire. Quand ils ont mal aux dents, en fait, ils vont chez le dentiste et fort peu naturel un dentiste, ou alors porte des chaussures et tout ça. Donc cet argument de la naturalité pour justifier des conduites me semble souvent le masque d'une hypocrisie ou un moyen de couvrir une violence sociale devenue norme. Peut-être que je peux reprendre pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'écrire ce livre. Donc sans doute ce truc un peu d'esprit de contradiction, de remise en cause de la norme qui tient à mon histoire personnelle, mais ce serait un peu long d'expliquer pourquoi. Et aussi parce que en fait j'ai écouté les femmes autour de moi. Alors moi je pars d'un a priori super positif, hein, concernant la pénétration. J'adorais ça, j'adore ça, c'est le summum, tout va bien. Mais je pense que la moindre des choses, quand on est un mec, parce qu'on est une situation privilégiée et de domination, mais voilà, c'est d'écouter ceux qui sont dans des situations qui sont dominées, qui sont pas privilégiées. Donc ça vaut pour les animaux, ça vaut pour les femmes, ça vaut pour les enfants. Il faut écouter. Voilà, je pense que notre souci en tant que mec, c'est de fermer notre gueule, de nous taire parfois, d'écouter ce que les autres ont à dire et d'écouter en particulier ce qu'ont les femmes ont à nous dire. Et donc moi j'étais très content, la pénétration ça m'allait très bien, mais voilà, mais j'ai questionné, j'ai écouté, et parfois j'ai écouté des choses qui ne se disaient pas dans l'intimité, c'est-à-dire que pour beaucoup de femmes c'est difficile de dire qu'elles n'aiment pas la pénétration, ou que c'est pas sensationnel, ou qu'elles attendent autre chose, qu'elles pourraient s'en passer parfois ou toujours, parce que la norme sociale est tellement forte pour les obliger à avoir des pratiques qu'elles n'aiment pas, qu'elles n'osent pas le dire, elles ont peur de décevoir leur compagnon homme. Et c'est un problème, donc il faut écouter les choses qui ne se disent pas et qui sont exprimées par les corps, par des attitudes et tout ça. Donc voilà, c'est ça, j'ai vraiment écouté les femmes autour de moi, et je me suis dit, ah bah ouais, en fait, la pénétration, bah c'est le fait que ce soit super pour moi, en fait, on s'en fout un peu, quoi. Il s'agit peut-être d'aller vers l'autre et d'écouter ce que les femmes ont à dire sur le sujet.
Ouais, vous écrivez, il est courant pour les hommes de penser qu'ils ont eu une femme quand ils ont couché avec elle. Ils l'ont soumise, ils ont gagné quelque chose sur elle, ils lui ont pris quelque chose. Les hommes ont un plaisir à se sentir dominants et à dominer les femmes. Ils ont pénétré, ils sont victorieux.
Ouais, ça c'est vraiment quelque chose de très troublant, c'est-à-dire que... alors je connais un jeune écrivain français, je connais des gens de gauche, je suis même entouré par des gens de gauche. Je connais quelques personnes de droite aussi, et il est frappant de voir que dans leur intimité, en fait, beaucoup de gens de gauche, en fait, sont des gens qui sont du côté du conservatisme, de l'oppression, et c'est aussi ça, même rapport aux animaux, ou même rapport avec les enfants, hein, d'ailleurs. C'est des gens de gauche qui sont des gens de gauche de façon intermittente, on va dire. Tant que mais ça ne concerne pas leur queue, tant que ça ne concerne pas leur beefsteak, tant que ça ne concerne pas...
Il y a eu des cas d'harcèlement sexuel à l'UNEF, là, mais enfin, c'est un peu vague, mais c'est
ouais,
un
mais,
de alors, gauche.
Mais, oui,
c'était oui, ou alors l'écolo, là, Denis Baupin, c'est aussi...
Ouais, non, mais partout, au PC, ouais. Mais je parle... Évidemment, les cas de viol, d'harcèlement sexuel dans les partis de gauche et tout ça sont...
Et notre ami qui devait devenir président, là, comment il s'appelle, celui qui s'est fait choper avec la bonne aux États-Unis.
Je ne sais pas. Ah, Dominique Strauss-Kahn.
Dominique Strauss-Kahn, magnifique.
Ouais, c'était une femme de ménage, ouais, c'était pas une bonne. Oui, donc évidemment, il y a tous ces cas emblématiques et tout ça, mais il y a aussi dans l'intimité, ce qui m'intéresse, c'est de parler de ces cas pas médiatiques aussi, c'est-à-dire des sexualités vues comme normales et sans problème, et qui sont en fait des sexualités où les femmes n'ont pas de plaisir, taisent ce dont elles ont envie. Alors, je ne remets pas du tout en cause. Moi, au départ, le titre de ce livre, c'était « Contre la pénétration », parce que j'aimais bien, c'est très provocateur. Évidemment, il ne s'agit pas pour moi de dire aux femmes qui... Voilà, il y a des femmes qui aiment la pénétration plus que toute autre pratique. Et ça, je ne le remets pas du tout en cause. Je dis simplement, écoutons les femmes qui n'aiment pas la pénétration, pas tout le temps, pas du tout. Et arrêtons de les stigmatiser. En tant qu'homme, ne les poussons pas à accepter la pénétration si elles n'aiment pas ça. Donc oui, bien sûr, à tous les cas emblématiques de viol et d'agression sexuelle dont vous parlez, mais en fait, le couple hétérosexuel, normal, sans bruit, sans pleurs et sans heurts, en fait, est aussi plein de violences commises par nous. Moi, en tant qu'homme, enfin, voilà, je pense que j'étais lamentable dans certains cas. Je pense que... parce que je me posais pas de questions, tout simplement. Et en se posant pas de questions, en n'en posant pas à notre partenaire, et en n'écoutant pas, voilà ce que je dis tout à l'heure, les réponses silencieuses, parfois, qu'elles pourraient nous faire, et ben en fait, on commet des choses qui sont de l'ordre de la violence.
On est d'accord, oui, c'est donc bien ça, c'est le... c'est écouter la nature, en fait, qui est en soi et qui est dans l'autre et qui est dans les rapports. Il y a un certain nombre de témoignages, c'est ça que je voulais dire dans votre livre, des témoignages très variés, donc qui nous permettent à nous-mêmes de faire notre propre bilan. Et je pensais à un exemple très parlant pour moi et totalement contre-productif par rapport à cette question, c'est le Viagra. Le fait de prendre du Viagra donne une impression de puissance, on a une érection mécanique, mais enlève toute sensibilité. Et quand le Viagra est sorti, comme j'ai des copains pharmaciens en Suisse, j'en ai tout de suite demandé une boîte et je l'ai essayé. Et donc j'ai fait l'amour avec ma compagne. Et après, c'était fini, je suis parti, je devais aller acheter quelque chose dans une grande surface et je faisais la file à la grande surface et je continuais à avoir une érection. Et ça m'avait fait beaucoup rire parce que j'étais quand même assez à l'aise avec le problème, ça faisait beaucoup rire. Mais donc c'était après, bon, j'ai fini la boîte et ça enlève toute sensibilité. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je vois vraiment un fort parallèle avec la nature. C'est effectivement, si on n'écoute jamais la nature, si on fait jamais attention, il faut retrouver cette sensibilité, il faut sentir la caresse du vent. Parce que il est évident que la réponse, elle est aussi dans la caresse, elle est aussi, dans votre témoignage, il y a une femme qui parle de quelqu'un qui lui a caressé le cou, et c'est vrai que tout de suite, ça nous donne la chair de poule, ça nous donne des frissons. Se faire caresser le ventre, ça fait envie, ça dépend qui on est, j'imagine. Il y a des gens qui préfèrent dominer, ou être dominé.
Tout est possible.
Tout est possible.
Ah, il n'y a aucun jugement par rapport à des pratiques, même de BDSM et tout ça dans mon livre et tout ça. Non, vraiment, tout est possible. Simplement, on voit que dans les faits, c'est que si tout est possible, quasiment rien n'est fait, en fait, dans les couples particulièrement hétérosexuels. Donc, vous parliez de la nature tout à l'heure, et moi, je trouve ça très beau, la nature, mais je ne suis pas sûr que ça existe vraiment, enfin, en tout cas, dans les rapports interpersonnels. Non, là, il ne s'agit pas simplement de laisser venir la nature, il s'agit pour les mecs de se remettre en cause, de penser et d'écouter leur partenaire, en fait.
Non, mais quand vous dites dans le quotidien du couple, rien n'est fait, mais quand un automobiliste est au volant de sa voiture, dans son rapport à la nature, rien n'est fait non plus. Il n'a pas un piéton, par exemple, à quelque chose de quelqu'un de très différent d'un automobiliste. Et l'automobiliste est son ennemi, il le sait. Même dans un endroit aussi urbain que Paris. Vous écrivez dans mon Kama Sutra, il y aura les caresses sur les bras, les baisers dans le cou, le massage des pieds, la masturbation, toutes sortes de pénétrations, l'effleurement entre les omoplates, le grattage de dos. Il y aura aussi le dialogue et les mots et les histoires fantasques. Il y aura l'endormissement contre le corps de l'autre, il y aura les rires aussi, des câlins et des foulards. Je suis entièrement d'accord avec ça et je propose de transposer ça, mais je ne voudrais pas vous enlever votre sujet, mais je propose de transposer ça dans la nature entière et d'aller faire du tai chi dans un parc, mais aussi en hiver ou sous la pluie.
Ah, mais puis pourquoi pas vivre le tai chi
et d'être la feuille en automne qui tombe, ah, et puis d'être parfait. Le bourgeon au printemps qui sort de la branche.
Allons-y.
Mais votre livre sur le sexe, et c'est bien.
Et bon, je pense.
Il faut que je vous laisse parler de sexe.
Non, non, mais.
Sexe. Et ah oui, j'ai marqué, et pourquoi pas à l'intérieur des cuisses. Et je pensais.
Tout est possible, vraiment.
Moi qui suis un littéraire, je pensais à Fourier. Je pensais beaucoup à Fourier. Je ne sais pas, c'est à cause de son type d'écriture, mais tout est dans Fourier, par exemple, dans la multiplication des. À l'infini des passions, des approches, des fétichismes, des. Il y a une telle tendresse, en fait, dans le fétichisme du pied, mais c'est mal vu. Le danger, c'est d'avoir un néo-hygiénisme, une néo-sexuelle. Enfin, c'est comme l'écologie.
Mais c'est un danger qui vient d'où?
C'est un danger qui vient du besoin d'autopunition quand on a trop déconné. Un désir d'être puni pour faire l'enfant sage, pour faire des grimaces, pour faire.
Et donc, faire à semblant cause de ça, d'être des gens. Sage. Ah, d'accord.
Et donc, si on pouvait multiplier les passions plutôt, toujours, ce que vous faites dans votre livre, évidemment, avec tous ces témoignages. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, en écrivant le livre? Enfin, vous n'avez pas écrit le livre d'un coup, vous avez
beaucoup communiqué. Oui, ça a mis du temps, parce que je l'ai écrit essentiellement en 2017-2018, et le début du livre, c'est, on va dire, 2015. Enfin, la première idée, le premier propos, on va dire. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris beaucoup de choses. J'imaginais pas en fait que c'était si important. J'imagine pas que quand j'ai fait un moment, donc j'ai écrit mon texte, il y a une partie essai que j'ai écrite dans mon coin, on peut dire, et il y a une partie qui est constituée de témoignages, donc de femmes hétérosexuelles, bisexuelles, lesbiennes, d'hommes homosexuels, hétérosexuels, etc., etc. Donc ouais, non, j'imaginais pas. en fait, que c'était aussi important. Là, on est une petite maison d'édition. En général, on fait des tirages à 200, 300 exemplaires. Et là, on coule sous les commandes et tout, parce qu'on n'est pas distribué, pas diffusé, donc très difficilement commandable en librairie, même si on invite les libraires à nous contacter. Là, on va demander à un éditeur traditionnel de prendre le relais, parce qu'on n'arrive pas du tout à suivre. J'arrête pas de recevoir des témoignages, essentiellement de femmes, évidemment. Super bouleversant et tout ça. Donc, j'imagine même pas que c'était à ce point-là. J'imagine pas que j'étais aussi bête de pas avoir pensé la question avant, en fait, et de pas avoir plus questionné les femmes autour de moi. Donc, ouais, la sexualité me paraît infiniment plus riche, belle.
Je viens d'avoir une illumination. Vous écrivez, il n'y a pas de film X sans pénétration. Et donc, je connais un monsieur qui doit avoir 74 ou 75 ans, qui s'appelle Jean-Pierre Buxou, qui a fait deux films porno. Et j'en avais passé un à mes étudiants avec... lui, il était dans la salle et les filles avaient été très touchées. Et donc, c'est un film porno des années 70. Mm-hmm. Et donc, il y a eu, par exemple, un grand moment de joie dans le cinéma pornographique français au début des années 70. Donc, ces choses mériteraient d'être fouillées, un petit peu comme le rapport à la nature. Et j'ai aussi reçu quelqu'un là sur la critique de rock très féconde entre 1965 et 1975. Et là, par exemple, il y a un type qui s'appelle Metzger, que je connaissais pas, dont j'ai lu un livre, où les préoccupations écologiques sont très présentes. Donc on a quand même des espaces toujours comme ça de respiration. On a toujours des endroits où il s'est passé des choses. C'est un petit peu la fonction de l'art. Je pense que si... Ah oui, alors ça, c'est passionnant. Vous parlez de la masse, du fait de, qu'il n'y a pas de... La masturbation, qu'il n'y a pas de chansons sur la masturbation masculine et qu'il y a des chansons sur la masturbation féminine.
Ouais, c'est parce que les mecs
ont toujours... J'ai trouvé ça formidable.
Ont toujours du mal à avouer, en fait. Les mecs ont toujours du mal à avouer qu'ils pourraient se faire... Enfin, ils le disent entre eux, hein, mais ils pourraient... Ils aiment bien se mettre en scène comme des... comme des machos, comme des mecs qui couchent avec beaucoup de femmes et tout ça, mais tout d'un coup de faire l'amour avec eux-mêmes, ça serait vu comme peut-être s'ils n'étaient pas un si bon con que ça, ou peut-être qu'ils seraient pas vraiment des donjons et tout ça. Il y a vraiment un truc très arrogant chez les mecs qui est très très gonflant quand même.
Si vous continuez à travailler sur le sujet, vous pourriez revenir en septembre et on pourrait faire une émission, par exemple avec Pink qui fait une chanson. Sur la masturbation, elle a Noguera, Caresse-moi, j'adore ça, Camille, Plaisir.
Et peu d'hommes font des chansons aussi sur le cunnilingus. Il y a Prince qui en a fait une dizaine, c'est vraiment particulier.
Magnifique,
tout ça.
Alors là,
mais c'est le seul. En France, il n'y a pas de chansons à ma connaissance sur
le cunnilingus. Non, mais le fait qu'il y ait Prince qui en ait fait 10, c'est magnifique.
Ouais, mais
c'est,
alors il est bien
on
seul.
On pourrait écouter ça, on pourrait essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, on pourrait se renseigner, on pourrait demander à des gens pourquoi lui, quoi.
Et pourquoi tous les autres ne le font pas en fait.
Comment était sa sexualité? On nous parle tout le temps de la sexualité de Michael Jackson, mais qu'est-ce qu'on sait sur la sexualité de Prince?
Et des chanteurs qui n'en parlent pas aussi, ouais, ce serait intéressant.
C'est bien, hein, comme...
C'est-à-dire que la sexualité, on nous vend toujours ça comme un truc super, super libéré et tout ça, mais on se rend compte en fait...
Le cunnilingus est souvent cité dans les chansons, dans le rap, chez Madonna, Christina Aguilera, Lee Fair, je ne sais pas comment ça se prononce, Goldfrapp. Hein, c'est bien ça, c'est vraiment... Les chanteurs masculins de Lou Reed à Leonard Cohen, en passant par mal de rappeurs, chantent volontiers le sexe oral, mais bien donc au jamais le cunnilingus. Faut pas déconner. Leur grand intérêt, c'est la fellation, forcément. Quelle originalité. Et donc voilà.
Mais en littérature, on trouve le même problème. Hein. C'est, je sais plus qui... une linguiste qui citait sur Twitter...
Elsa Ferrante ?
Non, c'était...
Parce que c'est dans le livre.
Ah oui, elle parle... Ouais, on parle d'Elsa Ferrante qui parle
Elle dit
de
que c'est désagréable d'être pénétrée, en fait, elle.
Voilà, c'est, en tout cas, c'est un personnage qui...
Elena Ferrante.
Ouais.
Peu de plaisir éprouvé par une femme lors des rapports par pénétration.
Alors, un personnage dit ça, ouais, effectivement.
Bon, ben c'était un super livre, la problématique, et donc ça intéresse beaucoup de gens. Peut-être qu'il va y avoir des éditions augmentées au-delà de la pénétration.
Ouais, je suis pas sûr, parce que là, moi, je vais passer à autre chose, mais un aspect dont on n'a pas parlé dans le livre, c'est aussi, là aussi, un trou noir de l'analyse de la pensée, c'est la pénétration des hommes hétérosexuels, en fait. C'est-à-dire que les hommes hétérosexuels ont une source de... un organe du plaisir qui est la prostate. Et pour le coup, ils sont, même s'ils disent qu'ils sont très libérés, souvent ils ont beaucoup de mal à être pénétrés, en fait.
Mais vous parlez des hétérosexuels, là.
Ouais, je parle des hétérosexuels.
Parce qu'il existe beaucoup de romans sur les rapports homosexuels.
Oh, non, mais je parle des hétérosexuels. Oui, non, ça, la pénétration des rapports homosexuels, je pense que c'est assez bien documenté, on en parle et tout ça. Non, ce dont on ne parle pas, c'est la pénétration des hommes hétérosexuels. C'est quand même un des grands tabous.
Bon, on va écouter un petit morceau de musique et après, on va discuter les trois.
Minutes par personne la douche, ok?
Je sais, ça va!
Ah ouais, dépêche!
Pas besoin de savon pour se faire mousser. Si tu chantes dans le pommeau et frottes comme Beyoncé. Sous la douche, je craque, craque mon slip en terre. Sous la douche, je bouge, je fais des clips imaginaires. Attention, lever de rideau sur l'artiste. Quand je pose, j'arrose mon flow. Attention, qui arrive? C'est dirty, elle y postiche au plus grand des calmes. Drop le mic, se jeter dans la fosse. Shame. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. La douche appartient à tous ceux qui chantent faux. C'est ma tournée, je paye ma taille de shampoing. Tu sais qui je suis, chanteuse de salle de bain. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. La douche appartient à tous ceux qui chantent faux. Mon style est trop propre, trop frais, je vais te mettre bien. Je vais te sit gang gang ta salle de bain. Et ça fait 1 pour la brosse, 2 pour le peignoir, 3 pour le gloss, 4 pour le rasoir. Et c'est parti pour la cire chaude, et c'est parti la cire est chaude. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. La douche appartient à tous ceux qui chantent faux. C'est ma tournée, je paye ma taille de shampoing. Tu sais qui je suis, chanteuse de salle de bain. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. La douche appartient à tous ceux qui chantent faux. C'est ma tournée, je paye ma taille de shampoing. Tu sais qui je suis, chanteuse de salle de bain. Quand je rentre dans la pièce, on dirait que ça s'agite. Quand j'entends mon tube à la radio, rien que ça gicle. T'inquiète pas pour le dodo, Max, c'est moi qui avis. Je prends deux big black, un sofa avec une grande frite. Break dedans, c'est pas justifié.
C'est à vous, messieurs. Qui c'est qui veut nous donner son avis? Vas-y.
On va lancer les choses. Moi, j'avais une question à te poser, Martin Page. Parce que tu parles justement de la pénétration, et moi j'ai réfléchi à la liquidité, il y a toujours un double mouvement. Est-ce que la pénétration, dans les témoignages que tu as recueillis, ne peut pas aussi être vécue à l'inverse, parce que c'est souvent ce truc de l'actif-passif, mais est-ce qu'à l'inverse, tu as pu rencontrer des femmes qui vivaient la pénétration comme une absorption, un engloutissement, c'est-à-dire quelque chose d'actif et non pas de passif, et où justement, où il y a une prise de possession?
Ouais, il y a vraiment un témoignage qui va en ce sens. Alors, la plupart des témoignages sont anonymes, sauf trois témoignages qui sont le fait de trois écrivaines qui ont signé de leur nom. Mais un des témoignages qui va dans ce sens, c'est-à-dire une femme qui revendique le fait, par exemple, sa position préférée, c'est d'être sur l'homme. Elle refuse la levrette, par exemple, parce qu'elle trouve ça avilissant et tout ça. Donc, elle se voit vraiment comme active et elle refuse de se laisser faire, comme elle dit. Je ne sais plus exactement ces termes, mais oui, elle va dans ce sens, oui.
Et toi, Yves, qu'est-ce que tu nous as réunis ce matin? Pénétration, liquéfaction. Comment tu t'amuses à faire le lien entre
les
deux éléments?
Alors, pour moi, le lien, il est évident, si tu veux, dans le sens où la liquéfaction est aussi menaçante pour moi que la pénétration, ou le matriarcat est aussi menaçant pour moi que le patriarcat. Donc, je rêve du royaume des enfants, d'un monde dans lequel les enfants seraient délivrés, qu'il n'y aurait plus que des enfants fous, un peu autistes, comme ça, qui régneraient sur la terre avec une grande amitié avec les choses et les animaux et la nature. Je rêve d'un autre monde, et il est évident que, mais bon, ce que Martin Page montre bien dans son livre, c'est quand même, on a beaucoup de goût à cette pénétration. Même si on est conscient que c'est une dimension parodique, on aime bien quand même bander, dominer, avoir quelqu'un à genoux devant nous. On a quand même cette masculinité. Et en plus, moi, je viens d'un milieu de truand, donc j'ai été très, très mal éduqué.
Je pense que c'est dans tous les milieux. Hein. Il serait peut-être temps, justement, mais je sens que c'est la responsabilité des mecs aujourd'hui. C'est le fait de bien aimer quelque chose. Ça ne devrait pas nous empêcher de, même au contraire, de le remettre en cause. Et là, on remet aussi la question de la viande. Hein. C'est toujours des discussions avec des gens. Moi, j'en parle peu parce que je sais que c'est un sujet sensible. Sur la viande, les gens me disent « Ah, mais moi, j'adore manger la viande. » Ben oui, bien sûr, évidemment. Moi aussi, hein, j'aime un magret de canard. Mais à un moment, on est des êtres éthiques, en relation avec d'autres individus, et il est temps pour nous de prendre en considération les désirs, les aspirations, la sensibilité des autres individus. On ne peut pas se contenter de dire « j'aime la pénétration et basta » ou « j'aime bouffer la viande et basta ».
Bon, pour répondre à la question d'Alain, je me sens plus proche du roman que du livre militant. Je me sens plus proche, effectivement. J'ai toujours mangé du riz complet et des légumes. J'étais hippie, c'est ma génération, les hippies. J'avais 20 ans en 68 et j'avais des cheveux longs en 66. Et très tôt, je me suis mis à manger des plats végétariens. Mais ça n'avait pas d'importance et le seul intérêt pour moi était économique. La viande coûtait cher, tout ça était compliqué et on pouvait connaître la satiété pendant 10 heures en ayant mangé un bol de riz complet et un kilo de légumes et se faire un sandwich à la banane. Et donc je me sens plus proche effectivement d'un univers avec des passerelles, d'un univers liquide plutôt.
Oui, mais aussi un rapport à la fête avec la viande. Dans Liquefaction, justement, à un moment donné, au moment de prendre la mer, il décide de faire pour la dernière fois un grand festin avec tout ce que la terre peut offrir à boire et à manger, dont la viande. Et c'est un immense festin d'adieu, d'au revoir à la terre. Et cette consommation de viande pendant très longtemps dans l'humanité, elle a été liée à des moments particuliers, des moments de fête. Et peut-être que c'est seulement assez récemment qu'on s'est mis à manger de la viande très souvent et qu'on a perdu ce rapport à la fête. Alors dans Liquefaction, puisqu'ensuite ils se retrouvent sur la mer, ils n'ont plus que les quelques réserves qu'ils retrouvent, quelques algues, du plancton, et puis on se retrouve dans le poissonnier, mais parce qu'il s'agit de survie.
Oui, ils n'ont pas le choix, bien sûr, évidemment. Oui.
Mais alors, je n'ai jamais eu de répugnance pour un fruit ou un légume, mais j'ai eu des répugnances pour de la viande ou des types de poissons. Mais j'ai aussi des grands enthousiasmes pour, par exemple, les fruits de mer. pour un homard, pour
ah mais c'est délicieux,
pour une sole au beurre, si je, ça me fait pleurer rien que d'y penser. Des filets de perche au bord du lac avec des frites bien grasses, il est clair, ça pose la question de la passion. Alors là,
non,
on
ça,
est...
cause la, ça pose la question à mon avis du plaisir
et du sang.
Et de ce que coûte le plaisir en souffrance en fait. Alors, que ce soit clair, là je parle de manière peut-être un peu dure et tout ça, je juge absolument pas les gens qui mangent du poisson ou de la viande et tout ça. Disons que j'interroge. Mon idée c'est d'interroger et de dire peut-être prenons un temps pour observer voilà, ce qui se passe en fait derrière ces choses qui nous donnent du plaisir, ces individus qui nous donnent du plaisir. C'est juste ça. La plupart de mes amis mangent toujours des animaux. Moi j'en ai mangé pendant longtemps, je serais la personne la plus mal placée pour juger quiconque mangerait des animaux. Je vous ai dit, moi, j'adorais le magret de canard. C'est pas du tout parce que j'aime pas la viande que j'ai cessé d'en manger. Hein. Donc, moi, je comprends très bien quand vous dites que la sode, c'est absolument délicieux. Et oui, je suis bien d'accord avec vous.
Il y a un film, je crois que c'est René qui l'a fait, et c'est Raymond Queneau qui a écrit le texte sur le plastique. C'est une apologie du plastique. Toutes les matières, l'époque du plastique, nope, les années 50, toutes les bakélites, tout ça qui date des années 30 et des 40.
Et donc,
c'est une apologie du plastique avec un très beau texte de Queneau qui sonne très, très bien et tout. Là, je peux jeter le film, le texte de Queneau et le film de René. Je peux tout jeter.
Parce que le plastique flotte et se rassemble au même point et il commence à poser problème. Mais pour revenir à cette inversion possible plaisir-souffrance, en fait, l'homme peut également avoir du plaisir à manger, évidemment, mais il peut devenir lui-même le manger. Il y a par exemple en Iran cette très très vieille coutume zoroastrienne des tours du silence où les cadavres sont posés comme ça en plein air et mangés par les oiseaux de proie. Il faut pas non plus oublier que la plupart des choses sont toujours dans la possibilité d'une inversion. Mais c'est très juste justement que le plaisir est en lien avec la souffrance et la souffrance avec le plaisir. Mais ne pas oublier, même si l'humanité a pris un autre choix, dans la vie de tous les jours, il y a à peu près aucune chance qu'on se fasse dévorer par un animal, en principe. Mais cette possibilité existe toujours. Elle est adjacente au fait d'être humain et vivant sur la Terre.
Elle est théorique, ouais.
Peut-être que tu peux prendre certaines maladies, comme même pas au niveau métaphorique, comme des choses qui te dévorent.
Ah ouais, oui, on en connaît une, on parlait de homard, il y a le crabe.
Ouais, tu peux, c'est vite là, quoi. Mais quand même, c'est ça qui est difficile, c'est difficile de... Cette apologie de la sagesse, c'est vrai que quand on, admettons qu'on marche dans un parc, on en voit beaucoup dans les films américains, par exemple, des vieilles chinoises qui font du tai chi dans le fond du plan. On marche dans un parc, on voit des gens qui font du tai chi. C'est pas très bandant, c'est faut reconnaître que c'est pas l'idée, et que c'est quand même très agréable aussi, des fois, de prendre, de consommer, de dévorer, de manger, de courir, de sauter en l'air, de chanter, de danser, de crier, de foutre le bordel, d'être, je parlais des enfants, Vigo, hein, comment s'appelle le film de Vigo?
Pas la Talente, mais Zéro de conduite.
Zéro de conduite! De se révolter, on a une envie, alors, mais là, tout, on fait peser sur nous une chape de plomb en disant « Mais non, vous avez déconné, il faut être sage, vous avez tout dégueulassé, il faut tout nettoyer. »
Qui est-ce qui fait peser une chape de plomb?
Le discours dominant avec les sacs en plastique dans la mer, avec la pollution, avec la remise en question globale.
Ouais, du règne de...
Du règne de la prédation.
Ouais, et du règne de l'homme dominant, blanc, privilégié, effectivement, qui détruit la planète et qui pollue. Moi, j'appelle pas ça une chape de plomb. Hein. C'est-à-dire que si on commence à faire prendre conscience aux dominants que leur domination a des effets délétères, destructeurs sur la planète, c'est pas une chape de plomb, c'est une libération, je veux dire, pour tous ceux qui sont pas des dominants. J'ai du mal à... voilà.
On a une charnière, hein, c'est difficile et tous les points de vue méritent d'être exprimés et on se sent partagé. Quand on est de bonne foi, on se sent partagé entre des pulsions contradictoires. Vous
bien
êtes
sûr.
D'accord?
Oui, bien sûr. Je dis pas que c'est pas compliqué. Évidemment que c'est compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que c'est certainement des jeunes générations, c'est un peu un cliché que je veux dire, que les choses vont changer. C'est-à-dire que à partir d'un certain moment, qu'on est on a des habitudes très ancrées, tout ça. Évidemment, c'est compliqué de changer. C'est douloureux. C'est, on remet en cause des représentations du monde, des habitudes, etc. On a l'impression de perdre des choses. On perd pas, en fait, au final. Moi aussi, pendant un temps, j'ai eu peur de perdre des choses. Mais en fait, on perd pas. On transforme. On crée autrement. On retrouve, finalement. Mais bien sûr que c'est compliqué. Tant mieux.
Tant mieux. Bon,
Moi, je voulais te poser une question parce que je vois ton livre, là, Au-delà de la pénétration, et je trouve l'édition tout à fait remarquable. Elise Hélas, mon éditeur, dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il y avait ce côté baroque, épique et rock'n'roll.
Ouais, la couverture est superbe.
Il travaille aussi sur une ligne graphique. Mais là, je suis très frappé parce qu'en Suisse, on vit un espèce d'âge d'or également de la micro-édition, des livres d'artistes. Et ce livre me fait vraiment penser à ce courant. Donc, tu peux nous dire quelques mots de cette maison d'édition ?
Alors, dire que on a créé cette maison d'édition, qui est la micro maison d'édition, même plus petit que micro. On fait des tirages qui sont de l'ordre au départ de 200-300 exemplaires, sauf pour celui-là, parce que c'est un succès inattendu qu'on n'avait pas prévu et tout ça. Mais c'est vraiment des tout petits tirages. Et l'idée, ce qu'on publie chez des éditeurs traditionnels, au Seuil, à l'École des loisirs et tout ça et tout ça. Et l'idée, c'était de faire des livres de qualité, des livres reliés, des livres avec rabat, des livres dont on pourrait choisir le papier, dont on pourrait choisir la typo, de refaire des livres d'artisanat presque, d'une certaine manière. On travaille avec un imprimeur en Italie, on aimerait travailler avec un imprimeur plus local, si c'est possible. Donc, s'il y a des imprimeurs qui nous écoutent, on est près d'Angers, contactez-nous. Donc, voilà, l'idée de refaire des objets durables, des objets qui vont résister au temps. Il y a encore quelques temps, j'avais un bouquin, un essai de d'édition Gallimard sur la Kanaki, tout ça, je l'ouvre, paf, il me pète dans les mains, quoi, parce que la colle était sèche. Donc, ouais, il y a cette idée de faire des livres qui vont tenir le coup, quoi.
Il y a un éditeur qui est venu chez moi m'acheter un livre des années 80 qui était dans ma cave, parce que j'avais fait un post sur Facebook là-dessus. Et puis, il a vu ce livre, et puis il m'a dit qu'en France, on pouvait plus éditer de livres à dorons cousus, collés avec du tissu sur la couverture. Enfin, le livre que je lui vendais, c'était impossible aucune imprimerie en France
Si, il y a des imprimeries
qui le font. Le plus proche, c'était en Italie pour avoir ça.
Non, on a des savoir-faire, on a des imprimeurs.
Il y a des imprimeurs qui mettent la clé sous la porte, mais il en existe encore.
Ouais.
Je précise juste, Elise Hélas n'est pas un micro-éditeur. Par contre, effectivement, ils ont eu, ici ou là, édité des livres à petit tirage. Récemment, un livre de Julie Enoch autour des nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon. C'est un tirage limité, un livre-objet. Donc, ça leur arrive aussi parfois, même si c'est un éditeur.
Mais ils ont fait beaucoup de livres. J'ai vu à la fin, c'est dans ton livre que j'ai vu les autres
titres. Ils commencent à avoir un joli catalogue.
Ouais. Ils font travailler des graphistes, la couverture est vraiment super belle. Et ça, c'est un truc que je regarde. En France, j'imagine, c'est la même chose en Suisse.
Mais il a été imprimé en Bulgarie.
Oui, alors justement, parce que pour des raisons de coût, ils ont longtemps imprimé en Suisse. Et puis, en fait, pour des raisons de coût, ils ont dû faire l'impression en Bulgarie.
Il y a une vingtaine ou 25 livres là dans la même collection. Donc
c'est en plus une seule collection. Donc il faut multiplier peut-être par 4 pour avoir le catalogue, parce qu'ils font aussi de la bande dessinée, des ouvrages graphiques, des essais, des pamphlets.
Ah, c'est chouette.
Bah, vous tenez le coup, les mecs. Merci d'être venus. Eh ben, ça a passé très vite. Hein. Revenez quand vous refaites quelque chose.
On refera certainement des choses, mais avec
plaisir.
Au courant. Tu veux que je chante le générique de fin ?
Ouais, vas-y, fais-le.
Ta 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 ta, dans ma salle de bain, je chante faux, soir et matin. Gilles. Dans ma salle de bain, je me prends les pieds dans le petit matin.